RMC, le week-end des experts, François Sorel.
Dans un instant, ce week-end des experts se poursuit. Après le jardin, après la maison, ce sera la santé et la forme avec le docteur Christian Aikiar. Il va nous apprendre à respirer, notre docteur préféré ce matin. On va parler aussi d'ostéopathie. À quoi sert l'ostéopathie? Et surtout, quelle est la différence, par exemple, avec un kiné? Tiens, on va évoquer tout ça dans quelques minutes. Mais auparavant, je ne sais pas s'il a besoin, justement, de massage ce matin. Je ne pense pas. Non. Il a l'air en forme.
On pourra parler du pied de Neymar avec le docteur qui est là.
Ah, bah écoutez, le pied de Neymar, je ne sais pas si ça inspire
peut-être
Christian.
Peut-être que vous avez des informations.
Bonjour, Christian.
Bonjour.
Est-ce que vous avez fissure du cinquième métatarsien?
Est-ce que vous avez fait des guilis-guilis au
ce
pied de Neymar?
Ce qu'il a comme traumatisme est un traumatisme sévère qui se répare très difficilement parce que le pied est une unité extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'on reverra Neymar avant la fin de la saison.
Ouh là là.
Je ne pense pas.
D'accord.
Je ne pense pas.
On parle de qu'est-ce qui est le plus dur là-dessus? C'est la rééducation?
C'est quoi c'est la réussite de l'intervention chirurgicale. C'est que parfois l'intervention chirurgicale est parfois plus péjorative qu'une réparation tissulaire normale parce que ça provoque des lésions aponévrotiques et des symphyses, des collages
interaponévrotiques.
Et donc je dirais que de bons massages, une bonne ostéopathie. Je serais inquiet.
Bon, ils ont privilégié l'opération pour qu'ils soient prêts pour la Coupe du Monde.
Ce qui m'inquiète, c'est la genèse de la chute et de la fracture. C'est inquiétant, ça prouve qu'il a des os fragiles.
Aïe, aïe, aïe. Mais la Coupe du Monde, c'est bientôt, là. Comment ça va?
Oui, c'est pour ça qu'il s'est fait opérer. Oui. C'est pour être prêt avec le Brésil.
Les Brésiliens nous l'ont aspiré. Ils vont pas nous le rendre.
Bon. En tout cas, pas tout de suite, visiblement. Oh. Parce que je pense que le PSG, vu ce qu'ils ont payé, ils vont vouloir qu'ils reviennent un de ces jours.
Je pose de questions.
Mais là, ça y est, on est cuit.
Mais c'est très intéressant.
Merci François Pinet pour cette actu sport. À bientôt, à la semaine prochaine. Non, évidemment. Alors, dernier match. On recommence depuis le début. Dernier match du PSG avant le choc face au Real Madrid.
Voilà, les Parisiens qui affrontent 3 cet après-midi en Ligue 1. S'en Neymar donc, mais pas seulement, puisque de nombreux joueurs ont été laissés au repos. On reviendra aussi sur les victoires de Nice et de Monaco hier. Du rugby au programme, 19e journée du top 14. Une belle bataille pour les places en play-off. Et puis les championnats du monde d'athlétisme en salle à Birmingham. Le Français Kevin Mayer est bien parti pour remporter l'épreuve d'heptathlon.
Et donc, on y revient, parce que de toute façon, on parle de lui tout le temps. Sans Neymar, le PSG joue à 3 cet après-midi.
Même quand il n'est pas là, on en parle. À 17h, 3 PSG, le coach parisien Unai Emery qui veut absolument éviter les blessures à 3 jours du choc face au Real Madrid en Ligue des Champions. Cavani, Verratti, Pastore, Marquinhos, Mbappé sont laissés au repos. Alors que Neymar se fait opérer aujourd'hui au Brésil, on va y revenir. Les supporters troyens ne verront pas la star brésilienne dans leur stade, une absence qu'ils ne vivent pas tous de la même manière. Mathieu Charret.
Il y a d'abord les vrais supporters troyens, les durs comme Harry, qui ne pensent qu'à une chose, le maintien en Ligue 1.
Que Neymar il soit là ou pas, ça me fait ni chaud ni froid. Des joueurs de grande qualité, des stars, on en a vu passer ici et c'est pas ce qui nous intéresse.
Et puis il y a ceux comme Sébastien qui hésitent entre amour du maillot troyen et passion du ballon rond.
Alors en tant que supporter, je suis pas trop déçu puisque ça laisse quand même plus de disponibilité à notre équipe pour essayer de faire quelque chose. Par contre, le spectateur qui aime voir du grand football et des grandes stars, un peu plus déçu, oui.
Et puis il y a l'équipe qui a perdu contre le PSG de Neymar en novembre dernier. Jean-Louis Garcia, le coach, s'en souvient encore.
On avait su les contrarier et c'est lui qui avait débloqué la situation. On a, disons, un petit peu moins de chances de se faire dérouiller sans Neymar qu'avec Neymar.
C'est donc un stade de l'aube sans star, mais plein d'espoir, qui accueillera les Parisiens cet après-midi.
Oui, c'est un patient pas comme les autres, Neymar, puisqu'il se fait opérer ce matin, on l'a dit. Les employés de l'hôpital n'ont pas le droit de demander des autographes à Neymar. Ils n'ont pas le droit de prendre des photos, parce qu'ils veulent éviter évidemment que des images fuitent à l'extérieur. La star qui a même le droit à un traitement spécial avec une suite de 300 mètres carrés. Il y a une aile carrément de l'hôpital qui a été réservée pour Neymar après
c'est
l'opération.
Sûr, pour un pied, il faut bien cette place-là.
Surtout quand on peut pas marcher. 300 mètres carrés, c'est cool.
Les autres matchs de la journée à 20h, Metz-Toulouse, Amiens-Rennes, Angers-Guingamp, Saint-Etienne-Dijon. Voici le programme à suivre, évidemment, sur RMC.
Et hier à Monaco, Monaco a conforté sa deuxième place.
Depuis leur élimination en Ligue des Champions, ça va bien pour Monaco, qui n'a plus perdu depuis 13 matchs. Monaco compte provisoirement 5 points d'avance sur le 3e Marseille. Une bonne opération, donc, pour le milieu monégasque Thomas Lemar.
On avait à cœur de prendre ces 3 points pour essayer de reprendre le large, même s'ils n'ont pas encore joué. Mais nous, c'était notre boulot de prendre les 3 points. Après, on verra ce qu'ils font les poursuivants. Pour moi, on a fait un très bon match. On a eu beaucoup d'occasions. On a eu la chance de revenir au score avant la mi-temps. Donc, on va dire que ça nous a mis bien dans le match.
Et le voisin de Monaco, Nice, s'impose 2-1 face à Lille dans le premier match de la 28e journée et se place comme un candidat pour les places européennes. Ils sont au 7e, les Niçois.
Place au rugby, une 19e journée de top 14 pleine d'enjeux.
Ça commencera à 14h45 avec Lyon qui a encore une petite chance de se qualifier pour les phases finales, qui reçoit Toulon. Le Racing 92 face à Brive à 18h, tout comme Castres face à Pau. Agen face au leader Montpellier à 20h45. Bordeaux-Bègles face à Toulouse. Des Bordelais qui auront du mal à accrocher les phases finales cette saison. Rory Tighe, l'entraîneur anglais de Bordeaux, sait qu'il reste encore beaucoup de travail à son équipe pour faire partie des meilleurs.
Pour moi, il faut changer le niveau de travail, être plus précis et continuer de donner plus de compréhension aux joueurs pour le niveau d'aller dans le top 6. C'est un grand club, il y a beaucoup de monde qui vient au stade et pas mal de monde qui attend pour la prochaine étape. J'ai pas envie de dire c'est la faute de quelques blessures, parce que vraiment, pour moi, c'est pas ça. C'est juste la mentalité d'aller au fond chaque week-end.
Et bravo, il parle bien français, hein, quand même.
Bah, pas mal, oui, évidemment.
Les mondiaux, on s'abattait.
Il parle mieux français que vous anglais.
Il parle peut-être même mieux français que moi français.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, en plus, il me dit. Non, mais ça va pas, non?
Non, bah, je sais pas.
Faites attention, oui, François Pinet, quand même.
Vous parlez très bien français.
Merci. Bravo. Les mondiaux en salle d'athlétisme débutent bien pour le français Kevin Mayer.
Mais oui, le champion du monde de décathlon, qui est leader après la première journée de l'heptathlon à Birmingham. Donc, décathlon, 10 épreuves. Heptathlon, 7 épreuves. Après le 60 mètres, le saut en longueur, le lancer du poids et le saut en hauteur, il lui reste donc 3 épreuves. Le 60 mètres haies, la perche et le 1000 mètres. François-Xavier de Châteaufort.
Avec 2 records personnels sur 60 mètres à la longueur et une place de leader à l'issue de la première journée, Kevin Mayer a géré son statut de favori. Seul bémol, une légère douleur à un genou qui l'a gêné à la hauteur. Pas de quoi s'inquiéter avant aujourd'hui, et notamment le 60 mètres haies et la perche qu'il affectionne.
Ouais, la douleur au genou, ça me fait peur pour la hauteur, ça me fera pas peur pour les... Clairement, il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux, me faire plaisir là. C'est des épreuves que j'aime énormément pratiquer en championnat. J'ai hâte d'y être et j'ai vraiment hâte de revenir à mon meilleur niveau. Cette année, je suis pas du tout en difficulté à la perche. Donc clairement, je me pose même pas la question de passer la première barre. J'espère aller beaucoup plus haut quand même.
Avec seulement 45 points d'avance sur le Canadien Warner, Kevin Mayer n'est pas complètement tranquille et va devoir envoyer, comme il dit, sur les 3 épreuves qui lui restent pour aller chercher son premier titre mondial en salle.
François, on termine avec un petit quiz tennis pour Christian Ekia, qui, c'est vrai, chaque semaine nous dit, moi j'adore le tennis, voilà. Je suis un fan de tennis, etc.
Il joue au tennis, il regarde tous les matchs.
Essayons de le pousser dans ses derniers retranchements, s'il vous plaît.
On en parle, puisque Lucas Pouille peut intégrer aujourd'hui, en cas de victoire en finale à Dubaï, le top 10 mondial. Et donc, je voulais demander...
C'est un événement, quand même.
C'est un événement.
Très bel événement.
Il y a seulement 11 Français avant lui qui ont réussi à le faire. Ce serait le 12e. Qui sont ces 11 Français?
Allez, Christian, vous avez 10 secondes.
Mais je suis d'un haut niveau d'incompétence, concrètement. Eh bien, nous allons dire Noah. 3e ou 5e.
Oui,
nous allons dire Tsonga. Nous allons dire mon fils.
Vous en avez d'autres?
Oh, bah oui, il y en a plein d'autres. Allons-y.
Dans le top 10.
Allons-y. Le compte. Voilà. 4e, 2e, peut-être, non?
On m'a dit en régie.
Forget.
Exactement.
Gasquet.
Bon. Gilles Simon. Cédric Pioline. Grosjean. Clément. Et alors, plus difficile, Thierry Tulane, qui n'est pas resté longtemps numéro 10.
Eh bien, écoutez, voilà. Je viens d'apprendre quelque chose. C'est intéressant de venir à RMC. Nous apprenons beaucoup de choses.
Eh bien, écoutez, ça, c'est pratique.
Hein. J'ai commencé le tennis il y a 5 ans. Hein, donc, avant, je ne m'y intéressais pas.
Ah, d'accord.
On se débrouille comme on peut.
Bah, c'est déjà pas mal. C'est un bon niveau. Vrai. François Pinet.
Pas encore top 10 mondial, mais ça vient.
Il faudra 12 vies, hein, pour 12 vies au moins.
En revanche, François, nous le confirmons, vous faites partie du top 10 des meilleurs présentateurs. Je voulais attendre ça pour tout à l'heure, mais je voulais commencer par le top 10 des meilleurs présentateurs d'actualité sport, oui. sur RMC le samedi matin. Donc ça réduit comme ça.
Oui,
c'est pour vous.
Top 3, alors. Comme je suis tout seul.
Sachez de l'ami discerner le flatteur, aimer qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue.
Je vois bien.
Monsieur Becherel qui vient d'arriver. Donc François, à tout à l'heure.
Hein. Oui, à tout à l'heure.
Et dans un instant, Christian Ekia, la forme, la santé sur RMC. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, votre forme. RMC.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bien sûr le moment de gym matin. Attention, il faut se réveiller.
Le week-end des experts, 8h, 9h, votre forme.
Attention, on met les mains derrière la nuque. Et
allez, on y va.
On me suit. Et 1, 2, 3.
François Sorel, Christian Ekia.
Et on est dur, et on est dur.
Ah, ça fait du bien, hein? Attendez.
Et je vois que vous êtes dans une forme atomique ce matin.
Écoutez, 3 semaines où j'ai pu faire la grasse mat, ça change tout quand même, hein. Ça fait du bien. C'est vous vrai. Aussi, vous avez pu vous en profiter, Christian.
Oui, du sport, mais tous les matins quand même.
Pour tous ceux qui n'étaient pas avec nous ces dernières semaines, qui n'écoutaient pas RMC, vous savez qu'on était en vacances, puisque vous avez pu suivre les JO de Corée du Sud en direct, en intégralité, durant tout ce mois de février. Et on est de retour et on est ravis d'être là. Ça y est, on reprend nos bonnes habitudes. Le week-end des experts avec la forme et la santé. Mon cher Christian, tout va bien ?
Remarquable.
Bon, tout à l'heure, on va parler d'ostéopathie.
Fondamental. Je m'adresse directement à Madame la Ministre de la Santé pour préciser que l'ostéopathie doit être intégrée dans un métier classique, périphérique du monde médical. Il y a des ostéopathes qui soignent autant que les médecins, sans anti-inflammatoire, avec beaucoup de finesse et d'une façon durable. Donc je suis un tout petit peu énervé. On va faire les preuves de ce que nous avançons.
Moi, j'aurais une question, malgré tout, parce que là, vous êtes en train de faire l'apologie de l'ostéopathie.
Ah, mais c'est pas l'apologie, c'est le remettre à sa place.
Voilà, mais est-ce que dans certains cas, l'ostéopathie peut faire mal ?
Non.
On évoquera tout ça tout à l'heure avec notre invité.
Ne m'agressez pas de cette façon-là. L'ostéopathie ne peut pas faire mal lorsque ce l'est fait avec des professionnels.
On en parle tout à l'heure.
Merci pour la question.
Votre coup de gueule, mon cher Christian, on va parler de ces médicaments majeurs qui sont en rupture de stock. C'est gravissime cette histoire.
Oui, c'est assez étonnant et on va voir pourquoi.
Voilà.
Et j'aurai aussi un coup de cœur parce que je viens d'apprendre ce matin des choses très extrêmement intéressantes. Je vous en fais la surprise.
Voilà, je vous rappelle que vous pouvez joindre notre docteur à tout moment au 3216 ou bien via l'appli RMC et Direct Studio. Vous avez un smartphone, vous installez l'appli RMC, que ce soit sous Android ou sur iPhone, et vous pouvez dialoguer avec nous, nous laisser vos petits messages, ils arrivent en temps réel dans ce studio. Christian, pour débuter, le conseil de l'expert, votre ordonnance de ce samedi matin.
Ah oui, alors cette fois-ci c'est spécifique, c'est spécial, c'est l'ordonnance pour toute une vie. Pour toute une vie. Parce que j'ai décidé d'évoquer ce matin, et nous aurons une émission spéciale sur le sujet en deuxième partie dans les prochaines semaines, mais déjà j'aimerais initier et susciter l'éveil de nos auditeurs sur un sujet clair, il faut apprendre à respirer. Ce que nous constatons, c'est que nous avons des enfants qui font des efforts sans respirer. Et le prof à côté ne dit rien.
Mais c'est pas quelque chose d'instinctif la respiration ?
Non, c'est pas quelque chose d'instinctif. Quand vous montez des escaliers, dès la première marche, il faut plus respirer. Parce que vous savez que parfois il y a deux étages à monter, ne vous étonnez pas que vous soyez essoufflé si vous ne respirez pas. Je vois souvent des...
Expliquez-nous pourquoi, Christian. Pourquoi faut-il respirer quand on fait un effort ?
Eh bien, d'abord, il faut savoir que le poumon est organisé d'une façon très spécifique. Les deux poumons sont dans une cage thoracique et les deux poumons sont collés à la cage thoracique par une plèvre, c'est-à-dire une pellicule qui touche la paroi thoracique.
Vous avez du mal là,
qui touche de peau, entre guillemets, qui touche le poumon. Oui. Et entre ces deux pellicules, il y a le vide. Et le fait qu'il y ait le vide, c'est comme ça que les poumons sont expansés contre la paroi.
L'élasticité.
Et ce qu'il faut savoir,
poumon.
C'est que quand vous inspirez, vous provoquez une dépression intrathoracique, vous avez du vide dans le poumon, ce qui fait que le sang veineux remonte tout seul du membre inférieur au niveau du cœur droit. Et quand vous expirez, eh bien vous sortez l'air et vous provoquez une surpression. Et c'est cette variation de dépression-surpression qui, à l'état de repos, permet finalement de respirer quasiment normalement. Mais quand vous faites un effort, les cellules musculaires, montez des escaliers, les cellules musculaires demandent plus d'oxygène, demandent plus de carburant, donc il faut accélérer le débit d'air qui est au niveau du poumon. Et le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui sont sédentaires, qui n'ont plus l'habitude de dépasser le volume ventilatoire classique.
D'accord.
Et dès lors que vous commencez à faire un effort, il faut respirer plus fort.
Alors on va remplir plus ses poumons.
Non, il faut, et c'est ce que je dis à tous les profs que je rencontre, et notamment au tennis, quand on voit des gamins au tennis qui courent vers une balle sans respirer, ben au bout de la troisième balle, ils arrivent plus.
Et
ben il faut expirer. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous êtes au tennis par exemple, vous frappez une balle, vous expirez, et le temps que vous rapportiez la raquette sur l'autre main, l'inspiration se fait automatiquement parce que ça, c'est un réflexe. Et du coup, vous inspirez. Et plus vous expirez fort, plus l'air qui va rentrer est en grand volume. Donc du coup, quand vous courez, par exemple, moi, c'est tous les 2 foulées et demie ou tous les 3 foulées, j'expire. Et ça devient un automatisme. Et plus vous courez vite, plus les expirations se font quasiment à la foulée. Et là, concrètement, vous expirez fortement et l'air rentre tout seul en inspiration.
Même chose pour les escaliers. On prend votre exemple de tout à l'heure.
À chaque marche que vous touchez, quand vous avez 12 étages à monter, les deux premiers, ça va à peu près.
Oui.
Mais au bout du troisième, on commence à être essoufflé. Ne pensez pas à inspirer. Oubliez ça. Il faut expirer toutes les deux marches, une expiration, et vous arrivez au deuxième étage, mais vous êtes frais comme un gardon.
Oui, enfin bon.
Si, frais comme un gardon.
Frais comme un gardon ?
Oui, absolument.
Est-ce que quand on est au bureau, par exemple, ou en situation où on ne bouge pas,
vous abordez un sujet capital. Ah, quand vous êtes sédentaire.
Et on l'avait pas préparé.
Quand vous êtes sédentaire.
Oui.
D'abord.
Par exemple, je suis assis 4 heures dans ce studio le samedi, dimanche matin.
Alors je constate, mon cher François, nous sommes amis depuis fort longtemps.
C'est vrai.
Nous passons parfois même des nuits ensemble, notamment pour le Grand Rush.
Oui,
30
tout à
heures.
Fait.
Eh bien,
alors, une nuit ensemble.
Qu'est-ce que je peux
c'est
Oui,
pas
oui, je regrette un peu d'ailleurs. Eh bien, concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que quand vous êtes assis, il faut que le plan du dos soit en avant du bassin. Et c'est comme ça que l'inspiration peut se faire correctement quand vous expirez correctement. Mmh. Et quand vous êtes assis, eh bien, 5 heures, il faut sortir toutes les heures quelques minutes pour aller respirer. Quand je vois malheureusement, minablement, pitoyablement des gens descendre dans la rue, dans cet immeuble, pour aller fumer, mais moi je descends pour aller respirer, vous voyez, on n'a pas le même paradigme de pensée.
Eux, ils respirent la fumée.
Bah oui, ils sont tordus, quoi, concrètement. Donc l'idée, c'est quoi? On va les aider, on va faire une émission pour les aider à arrêter de fumer,
bien sûr.
On va les aider humblement, soyons très humbles.
Vous allez pouvoir en aider certains dans la rédaction. Je ne cite pas de nom,
histoire de ne pas
les mettre en porte-à-faux.
Je pense à Amina notamment. Et donc concrètement, l'idée, c'est simplement préciser que
Amina, notre standardiste chérie,
magnifique,
la princesse du téléphone, on peut le dire.
Absolument. Eh bien, ce que je voulais préciser, c'est qu'au fond, lorsque vous êtes dans un bureau, dans de l'air confiné, eh bien, il faut tout simplement sortir toutes les heures, quelques minutes. Et quand vous êtes sédentaire au travail, sortir 4-5 minutes par heure est une nécessité. Et je regrette parfois de voir des chefs d'entreprise qui ne laissent pas se détendre les collaborateurs parce que la respiration est importante. Quand vous avez dormi toute une nuit dans une chambre à 20 degrés, quand vous sortez, les premiers réflexes, c'est quoi? C'est vous êtes dehors, vous expirez fortement, et là, vous vous réoxygénez. Et de ce fait, 3 heures de marche le week-end, c'est une réoxygénation extraordinaire, en sachant qu'il faut expirer, l'inspiration se fait automatiquement.
Voilà, par réflexe.
Et plus la ceinture abdominale est de qualité, plus votre respiration sera profonde et de qualité.
La ceinture abdominale, c'est les abdos, voilà.
Voilà, absolument.
Christine est avec nous au 3216. Christian, bonjour Christine.
Bonjour docteur, bonjour
Christine.
À tous.
Bonjour.
Comment allez-vous Christine ce matin?
Ça va et je suis vraiment heureuse que vous puissiez me répondre parce que j'ai des petites angoisses ce matin.
Ah, qu'est-ce qui vous arrive, Christine?
Eh bien, il m'arrive que j'ai parcouru un article comme quoi le lait de soja, accompagné, parce que moi je prends du pain complet aussi, était très mauvais pour la thyroïde, le lait de soja, et je voulais l'avis du docteur sur ce point parce que j'ai pas un problème de thyroïde qui fonctionne très bien, mais j'ai des nodules à l'intérieur. Ah. Et donc là, j'ai eu une cytoponction. Et ce lait de soja, maintenant, m'angoisse si je continue à en boire. Je voulais savoir l'avis du docteur. Merci.
Alors, le docteur est là.
Merci Christine. D'abord, ce n'est pas du lait de soja. Et je regrette parce que je veux défendre les producteurs de lait et agriculteurs qui font du lait de vache. C'est évidemment du jus de soja, et le jus de soja pour vous évidemment c'est
le lait de soja, en fait c'est du marketing,
le mot blanc, lait à côté de soja, c'est
rien,
du marketing. En revanche Christine, du jus de soja ou votre lait de soja que vous prenez concrètement dans votre magasin, eh bien c'est le moins possible effectivement pour vous. Quant au pain complet, je ne vois pas l'intérêt de vous enlever le pain complet. Donc vous pouvez continuer le pain complet. En revanche, ne dépassez pas 2-3 tranches par jour. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pourrais effectivement continuer quelques heures
sur le sujet. Le lait de soja, faut pas abuser quand on a des problèmes.
Le lait de soja, il faut pas abuser, effectivement. D'accord. Ça veut dire c'est 2-3 verres par semaine, pas plus. Pas plus.
Et le lait normal?
Le lait normal, c'est un verre par jour, à condition que le lait soit issu d'une vache qui a mangé de l'herbe, qui a bu de l'eau propre.
Juste, c'est vrai qu'il y a une mode, tout le monde dit le lait de soja, c'est génial, je vais acheter ça dans un truc bio,
non,
c'est trop cool.
Parce qu'il y a quand même des hormones dedans qui sont perturbatrices au niveau hormonal chez la femme.
C'est pas anodin le lait de soja.
C'est pas anodin. Rien n'est anodin. Mais ce que je regrette, c'est qu'on va, on quitte le lait de vache sur lequel on a beaucoup à dire, hein, et pas seulement des choses positives. Et on va vers le lait de soja à outrance. Oui. Je n'aime pas ces aspects excessifs. Il faut du bon sens pour les deux.
Et le lait d'amande, tiens.
Le jus d'amande.
Le jus, pardon.
Moi, j'aimerais, Christine, fassiez en deux secondes un jus de fruits, multifruits, trois fois par semaine, et un lait de soja, trois fois par semaine, et une fois par semaine, un verre de lait. Voilà.
Et donc le lait d'amande, vous ne répondez pas, vous en foutez.
Le lait d'amande, mettre le lait d'amande dans un jus de multifruits, c'est-à-dire des pommes, du gingembre, un jus de carotte et un jus d'orange.
D'accord.
C'est fantastique, avec un zeste de banane. Vous mangez ça, c'est somptueux. Le gingembre vous stimulerait sur le plan de... Voilà.
Oui, bien sûr, allez-y. Samedi matin en plus, c'est parfait. C'est très bien, j'ai le temps.
Vous avez toujours le temps.
Oui, c'est sûr, oui. Pendant la pause info, hein, j'ai 5 minutes, c'est un peu court quand même. Christian, on revient dans un instant. Hein, voilà.
Si vous voulez.
Vous avez pas répondu sur le lait d'amande. Je sais pas ce que vous avez contre le lait d'amande. Parce que c'est Jérémy Souliman qui est là, qui me posait la question, qui me susurrait la question là dans l'oreille. Non, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Voilà, merci. Au moins, c'est clair. Il est 8h29, c'est RMC.
RMC, 8h-9h, votre forme, François Sorel, Christian Reca.
Il est 8h33. Tiens, 33 comme le docteur, ça tombe bien, Christian Reca. Comme quoi, finalement, hein. Mon cher Christian, on est ensemble jusqu'à 9h. Et je vous rappelle que juste après, entre 9 et 10, on retrouvera Raphaël Grabli pour la vie numérique et cette question existentielle, comment choisir son smartphone. Voilà, entre autres, on évoquera entre autres ce sujet. Christian, l'ostéopathie maintenant.
Alors, je tiens à préciser, je m'adresse toujours à Madame la Ministre de la Santé.
Il nous écoute.
Hein, et je m'adresse également à Monsieur Emmanuel Macron pour préciser que durant ma carrière de médecin, où j'ai côtoyé quand même en tant qu'interne, puis ensuite hospitalier auprès du professeur Cabrol pendant 30 ans, auprès du professeur Larcan pendant autant de temps, tous présidents de l'Académie de médecine, auprès du professeur Henri Bourg de l'Académie de médecine, j'ai trouvé que ces académiciens, que je respecte par-dessus tout, n'avaient pas de bons discours vis-à-vis de l'ostéopathie. Et ce que je peux préciser en tant que sportif, maintenant 50 ans, les professeurs de médecine n'ont pas forcément le réflexe, les professeurs de médecine que j'ai connus, et ceux que je connais encore aujourd'hui et qui ont mon âge, quand j'étais enseignant à la faculté de médecine, quand j'étais bi-appartenant à la faculté de médecine et au CHU, je constatais que les médecins traditionnalistes, qu'on dit traditionnalistes, avaient l'avantage de proposer des antibiotiques et des anti-inflammatoires, avaient parfois pas compris qu'une bonne kiné respiratoire sur une bronchiolite chez un enfant est beaucoup plus efficace que l'antibiothérapie, et là il faut prescrire de la kiné. Et concrètement, quand on parlait d'ostéopathie, il y avait une sorte de hantise en disant « mais mon Dieu, c'est pas sérieux ».
Mais pourquoi ? Parce que c'était pas des médecins vraiment.
Parce que je pense que la profession ostéopathie, il y a 40 ans, et je parle sous l'égide de Madame Audrey Guillaume qui nous accompagne là, qui est une grande pointure de l'ostéopathie.
Merci d'être là, Audrey, ce matin. Bonjour.
Merci. Bonjour.
Et qui va s'exprimer très vite quand j'aurai terminé dans une heure. Eh bien, concrètement, l'idée, simplement préciser que, au fond, depuis 55 ans, je fais du sport. Depuis 25 ans, je pratique du sport avec des sportifs de haut niveau. Eh bien, je constate que ces sportifs ont des ostéopathes à leur côté. Et pour avoir vécu aux côtés de patients qui n'arrivaient plus à marcher, que des patients à qui on prescrivait des anti-inflammatoires durant des semaines, sans aucune efficacité. Des patients à qui on disait « du repos suffira ». Eh bien, une heure d'ostéopathie après quelques semaines de douleur, eh bien, permettait de résoudre le problème. Et là, se posent des questions.
C'est-à-dire que le cliché de l'ostéopathie, pardon, je vous coupe, Christian, c'est « j'ai mal au dos, je vais voir l'ostéo ». En gros, c'est ça.
Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Beaucoup plus que ça.
Parce que finalement, nous avons un squelette et la charpente squelettique est arborée par des muscles antérieurs et postérieurs, agonistes et antagonistes, parfaitement complémentaires, gérés par un système neurovégétatif parasympathique et orthosympathique. C'est finalement l'ostéopathie qui peut donner le sens à tout cela. Quand on est en Asie, on fait de la digitoponcture. L'idée pour moi est de ne pas opposer médecine traditionnelle et médecine douce. D'ailleurs, le mot médecine douce devrait disparaître, c'est de dire, on est dans une vision globale, dans une vision humble, et à chaque cas, il y a une particularité, une spécificité, et très souvent, l'ostéopathie est efficace pour des nourrissons, pour des enfants, pour des femmes enceintes, pour des femmes quelques jours avant l'accouchement, pour des femmes quelques jours après l'accouchement, d'accord. Ce qui veut dire que dans tous les moments de la vie, nous avons absolument besoin d'ostéopathie.
Même si on a pas mal. Est-ce que, par exemple, alors on va poser quand même la question, on va laisser la parole
Je
à Audrey.
Je laisse la parole à Audrey.
Rappelons que vous êtes ostéopathe en club sportif et en Fédération française de sport adapté aussi, et en maternité.
Oui.
C'est vrai qu'on vient vous voir la plupart du temps, moi ça m'arrive comme beaucoup, quand on a mal au dos. Mais est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, une fois par an, une fois tous les six mois, aller chez l'ostéo, même si on n'a pas de douleur, ça a du sens ?
Bien sûr. En fait, l'ostéopathie s'adresse aux troubles fonctionnels. Donc, l'intérêt d'aller consulter un ostéopathe en prévention, ça va être d'intervenir avant l'installation de ces troubles fonctionnels.
Donc, c'est en prévention ?
En prévention.
D'accord.
Et ce qui est remarquable, c'est que les ostéopathes, dont madame, est capable de voir sur un sujet qui n'a encore pas mal, des déséquilibres de position du bassin, de déséquilibres de position de la ceinture scapulaire vers les épaules, de déséquilibres au niveau de la ceinture abdominale et notamment au niveau des chevilles, concrètement. Et on peut vraiment, effectivement, positionner les futurs problèmes chez une personne. Notamment chez l'enfant, chez la femme enceinte. Alors, dites-moi, c'est la question évidemment qui fait débat, quelle différence entre ostéopathie, kinésithérapie et chiropractie ?
Alors, c'est justement Océane, la question d'Océane qu'on a eue sur Direct Studio.
L'ostéopathe va avoir une vision globale de l'individu, donc on va s'intéresser vraiment à toutes les structures du corps. Le kinésithérapeute va avoir une action plutôt locale, et va intervenir surtout quand il y a eu lésion tissulaire diagnostiquée. Donc en cas d'entorse, de fracture, en post...
Après une pathologie.
Voilà, après une pathologie. Donc il va avoir trois fonctions, fonction d'antalgie, fonction de rééducation et de réathlétisation ou de réintégration pardon, proprioceptive.
Et alors le chiropracteur, c'est quoi ?
Le chiropracteur va avoir une approche plus globale, comme l'ostéopathe, et lui, il va se focaliser sur le système neurologique.
D'accord.
Alors attendez, ça veut dire quoi concrètement ? C'est quoi la différence ? Simple.
Alors, c'est des différences de technique principalement.
D'accord. Est-ce que les chiropracteurs font craquer ?
Ils peuvent faire craquer. Après, c'est comme l'ostéopathie, il y a tout un tas de techniques et d'outils. Ça dépend du praticien que vous consultez.
Juste la question de Véronique, qui est peut-être un petit peu plus précise. Est-ce nécessaire de faire craquer quand on est ostéopathe ?
Non, absolument pas. Le craquement, les techniques qui font craquer sont en minorité dans notre panel de techniques. Et on a tout un tas d'autres techniques qu'on appelle les techniques fonctionnelles qui vont être très douces. On va rechercher les zones de tension par modification de mouvement, de densité dans l'ensemble du corps pour rééquilibrer toutes ces structures.
Mais parfois, c'est nécessaire de faire craquer ou pas forcément ?
Pas forcément, parce qu'on peut utiliser d'autres techniques.
Pour être très simple, une personne ostéopathe qui fait craquer, je déprescris cette personne. Je n'adresse jamais un patient chez un ostéopathe qui fait craquer. Jamais.
Audrey, c'est quoi ? C'est mauvais signe quand un ostéopathe fait craquer ou pas ?
C'est pas mauvais signe, mais ça peut être décourageant pour le patient ou le médecin parce que ça fait peur.
Pourquoi je dis ça ?
Mais ça ne peut faire que peur ou ça peut avoir des conséquences ?
Non, ce n'est pas dangereux à partir du moment où le praticien est bien formé.
Voilà, et c'est ça, qui est gênant, c'est-à-dire qu'au fond, avec Audrey Guillaume, ce qui m'intéresse dans sa technique, c'est quand un patient s'allonge sur la table, avec une jambe droite à l'équerre, parce que la personne ne peut pas abaisser la jambe horizontalement, parce qu'elle est bloquée, avec la technique d'Audrey, je parle sous l'égide d'Audrey Guillaume, évidemment, par ces techniques douces, sans faire craquer, en commençant par le bassin, l'abdomen et puis la jambe là où il y a eu une douleur, en l'espace d'une heure, la personne allonge sa jambe et repart en marchant. Il n'y a pas eu de cracking. Le vrai problème du craquement, c'est qu'on peut provoquer finalement, pour moi, et ça c'est le médecin qui parle et pas forcément le professionnel, des micro-traumatismes vasculaires, parce qu'il faut savoir que dans la technique douce d'Audrey Guillaume, il y a du contact, c'est de la digitoponcture, c'est de la canalisation parasympathique et orthosympathique très douce. On ne touche à rien, sinon qu'on refait des influx et on fait allonger psychologiquement. Et d'ailleurs, quand le patient expire au fur et à mesure du doigté d'Audrey Guillaume ou d'un autre ostéopathe qui fait la même technique, ça fonctionne tout seul, la respiration. Le vrai problème du cracking, c'est qu'il y a des micro-vaisseaux qui sont plus petits que le cheveu, 10 fois plus petits que le cheveu, qui peuvent subir des lésions, et notamment au niveau cervical. Ce qui veut dire pour moi, et c'est Christian Requia qui parle, je n'engage que ma responsabilité là, évidemment.
Éviter le cracking.
Éviter le cracking. Et je dis au ministre, il serait très important que l'ostéopathie soit intégrée dans le monde médical, comme celui de la kiné, comme celui du médecin rééducateur. Et moi qui étais anatomiste de formation et qui ai formé un grand nombre de médecins rééducateurs, l'ostéopathie, l'ostéopathe doit se trouver dans chaque service hospitalier, car quand une personne subit une intervention chirurgicale, l'ostéopathe doit être présent. Quand un enfant est hospitalisé, l'ostéopathe doit être présent. Un ostéopathe, un service hospitalier.
Dans un instant, nous aurons Patricia qui va nous raconter son histoire. Et vous verrez que grâce à l'ostéopathe, elle va beaucoup, beaucoup mieux. On va la retrouver dans un instant. N'hésitez pas. Hein, vous voulez avec nous parler ce matin d'ostéopathie, 3216. Vous avez aussi l'appli RMC sur iPhone ou sur Android. À tout moment, vous pouvez nous laisser un message via Direct Studio. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 8h-9h, votre forme. RMC jusqu'à 9h, votre forme, François Sorel, Christian Requia.
9h moins le quart, c'est RMC, juste petit teasing tout à l'heure. Entre 9h et 10h avec Raphaël Grabi, on va vous donner des conseils pour choisir votre smartphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons toujours un smartphone dans la poche. C'est devenu un outil véritablement important au quotidien. Comment le choisir suivant qu'on a la possibilité d'avoir un petit ou un grand budget. Donc n'hésitez pas, toutes vos questions dès maintenant hein, d'ailleurs, au 3216. Si votre question est sélectionnée, eh bien Raphaël y répondra. 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Christian Requia, on revient à l'ostéopathie et nous avons Patricia qui est là. Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia.
Bonjour, merci à vous. En tous les cas, j'adore votre émission.
Oh, c'est gentil, Patricia.
Ah oui, non, mais sincèrement, d'ailleurs, pendant les JO, j'étais un peu frustrée, mais enfin bon.
Bon, écoutez, ça y est, on est là, on est de retour.
Mais d'ailleurs, Patricia, François m'a promis que j'allais récupérer 3 heures d'émission aujourd'hui. Donc je pense qu'on va terminer à midi.
C'était François.
Déjà, oui, il y a des bons conseils, on en prend et on en laisse. Alors moi, mon histoire avec l'ostéopathie, d'ailleurs, je suis 100% d'accord avec vous, docteur. Et sachant que l'ostéopathie est des fois plus réparatrice que des médicaments, suite à une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, je suis tombée dans un magasin très violemment. Et donc j'avais très mal, je vais voir un généraliste qui me donne du Voltaren, sans citer le nom, piqûre, etc. Ça n'allait pas mieux.
Voltaren, c'est violent en plus, hein.
Pardon.
Le Voltaren, c'est violent, enfin c'est un...
Ah oui, puis je ne le supportais pas.
Bonjour l'estomac, hein, oui.
Oui, bonjour l'estomac, et en plus, donc piqûres, médicaments, etc. Et j'ai une personne de ma famille qui me dit, va voir cet ostéopathe, dont je ne citerai pas le nom, un grand professionnel qui, je vais le voir, et en fin de compte, en 2 séances, à 15 jours d'intervalle, a détecté que j'avais un rein qui était tombé lors de cette rechute, me l'a relevé, on va dire ça comme ça, excusez-moi le terme, j'ai pas les termes ostéopathiques, et après ça a été terminé. Et de ce fait, après, je suis allée souvent chez les ostéopathes. Je continue parce que ce sont des personnes qui effectivement analysent votre corps. Excusez-moi de m'en parler voilà.
Oui.
Et on connaît son corps et on connaît après toutes les manipulations qui sont bonnes ou mauvaises. Et j'avoue que franchement, c'est vraiment dommage. Et je rejoins que la sécurité sociale ne prenne pas ça en charge. Parce que franchement, ça éviterait beaucoup de dégâts, médicaments et autres.
Ah oui, ça éviterait surtout des lésions digestives, gastriques liées à un excès de prise d'anti-inflammatoires. Donc effectivement, ce que je voulais préciser, c'est que la mise en place de consultations ostéopathiques tous les mois, 10 mois par an pour chaque individu, permettrait à chaque individu de rééquilibrer toutes les phases musculaires, antérieures, postérieures, abdominales, dorsales et au niveau des membres inférieurs. Alors, quand j'entends au niveau du rein, une chute du rein, madame, le rein est dans une loge rénale. Cette loge rénale est tenue par des muscles abdominaux liés à une hyperpression abdominale. Et de ce fait, lors de la chute, il y a eu sans doute un mouvement de cette loge abdominale avec un étirement des nerfs. Et ce qu'il a fait, c'est un rééquilibrage musculaire. Et ce que je dis également, c'est que pour chaque entraînement sportif de haut niveau, à raison de 2-3 heures dans une journée, eh bien après une séance de 2-3 heures de sport de très haut niveau pour des sportifs de très haut niveau, l'ostéopathe est tout simplement nécessaire.
Indispensable.
C'est presque une obligation.
D'accord.
Et pour ma part, 10 heures d'activité physique.
C'est en complément des étirements.
C'est en complément d'étirements et c'est
des super étirements.
C'est un étirement fin et une demi-heure d'ostéopathie est remarquable.
Audrey.
Oui, en fait, après une séance de sport importante, ce qui va être intéressant.
On parle des sportifs de haut niveau dont vous vous occupez.
Oui, ou pas forcément. Tout sportif peut venir consulter un ostéopathe parce qu'en fait, on va éviter au corps d'installer des adaptations et des compensations tissulaires.
C'est comme si on appuyait sur le reset du corps, c'est ça?
Un peu ça, ouais.
Un peu, pour le redémarrer, en quelque sorte.
Moi, j'ai un ami qui a fait de l'elliptique il y a quelques temps, il y a une petite année, et puis concrètement, qui a eu une contracture au niveau d'un des adducteurs, avec une des douleurs au niveau des genoux.
Il a dû souffrir, le pauvre.
Et ben, il a énormément souffert, et bien effectivement, des séances d'ostéopathie auraient été nécessaires, et bien sûr, l'elliptique est sans doute en cause, mais le fait de faire des gestes toujours identiques, et des gestes mal fait, provoque des hyper-contractures et des micro-déchirures. Et c'est pas les anti-inflammatoires qui peuvent gérer. C'est le rééquilibrage des tensions. Quand vous êtes sur un voilier, que vous tendez trop une voile, eh bien, le voilier part à volo. Eh bien là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des voiles tendues finement.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on rééquilibre,
les voiles, absolument.
Guillaume est avec nous au 32-16. Bonjour Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue,
Guillaume.
Guillaume, on vous écoute.
Oui, alors moi je voulais poser une question au docteur. Je suis actuellement en rééducation dans un centre de rééducation suite à un AVC.
Oui.
Et mais d'abord je voulais souligner le travail fantastique que font tous les kinés, orthophonistes, etc.
Ah oui, des gens merveilleux,
voilà, qui arrivent à remettre sur pied les gens d'une façon assez incroyable. Et moi, ma question donc concerne l'ostéopathie dans le sens où, malgré toutes les séances de kiné que je suis, j'ai de gros problèmes de sensibilité, surtout les mi-corps gauche, et du coup, j'ai de grosses tensions, des douleurs notamment dans le genou et dans l'épaule.
Vous vous demandez si des séances d'ostéopathie pourraient vous faire du bien, Guillaume, pour résumer?
Ça pourrait me faire du bien et régler probablement certains problèmes posturaux.
D'accord.
Que je dois avoir, moi, et beaucoup d'autres aussi.
D'accord. Audrey, d'ailleurs. Christian?
Je vais répondre une seconde. Après un accident vasculaire cérébral, le kinésithérapeute doit être à vos côtés et des séances d'ostéopathie doivent être faites toutes les semaines. Je laisse parler Audrey sur le sujet.
Oui, en fait, Guillaume, vous avez relevé un point important, c'est les problèmes de posture, en fait, suite à un accident quelconque, et les AVC en font partie. Donc l'ostéopathe va pouvoir rééquilibrer l'ensemble du corps par rapport à ces troubles posturaux et ces malpositions.
Et c'est en compliment du kiné, parce qu'on pourrait dire aussi que le kiné fait la même chose. Finalement.
Non, il ne va pas faire la même chose, il va vraiment s'intéresser
à des troubles liés à la pathologie.
D'accord. Locaux, et l'ostéopathe plus généralement à la posture entière.
Vous travaillez souvent de concert, kinésithérapeute et ostéopathe?
Oui. On a deux approches très différentes.
D'accord.
mais c'est vraiment complémentaire, oui.
Avec un point important, c'est qu'un kinésithérapeute va s'intéresser au fait qu'aujourd'hui, une personne qui a subi un accident vasculaire cérébral n'est pas en mesure de marcher correctement ou de positionner ses mouvements correctement. L'ostéopathe va pouvoir repositionner les deux iliaques, le bassin, repositionner l'équilibre de toutes les parties antérieures et postérieures musculaires. Donc c'est un rééquilibrage énergétique, un rééquilibrage musculaire. L'ostéopathie est une nécessité dans la vie. Pour le sportif de niveau, pour les nourrissons, pour les femmes enceintes, pour tous.
Audrey Guillaume, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de m'avoir reçu.
Merci. Christian, pour terminer, votre coup de gueule.
Alors avant le coup de gueule, c'est je rends hommage, et je ne fais pas de politique, vous le savez très bien, le président Emmanuel Macron, avec Madame la ministre, Madame Buzyn, ont mis en place un stage obligatoire pour les 53 000 étudiants de santé dans le pays. Et à partir de 2019, pendant tout leur cursus, ils vont devoir assumer 3 mois d'initiation à la prévention dans les écoles. Je trouve ça génial. C'est une idée qu'on avait donnée à monsieur Jacques Chirac en son temps avec le professeur Cabrol. Le professeur Cabrol et moi-même, nous avions proposé ça à monsieur Jacques Chirac concrètement parce que finalement, c'est une façon d'éduquer la population. Et quant au coup de gueule, eh bien, au coup de gueule, c'est très simple. Depuis, en 2017, 510 médicaments n'ont pas été servis correctement avec des ruptures de stock considérables.
Des médicaments en plus.
Des médicaments très pointus qui peuvent mettre en péril, si on n'en a pas, la vie des citoyens.
Je pense certains anticancéreux, Christian.
Des anticancéreux, des antibiotiques. Bien évidemment, tout ça est tout à fait périlleux pour la démocratie. Sachez tout de même, pour relativiser les choses, qu'il y a 25 ans, il y avait 20% des matières premières qui venaient d'autres pays que l'Europe. Aujourd'hui, 80% des matières premières viennent d'autres pays que l'Europe. Mmh. Et ces ruptures de stock ont été multipliées par 12 en 5 ans, ce qui est tout à fait considérable. Donc je demande à nos ministres responsables de veiller au grain, parce que 12 fois plus de ruptures de stock en 5 ans, c'est très très ennuyeux. Et je demande aux citoyens d'être alertés sur le sujet et de s'y intéresser.
Christian, merci beaucoup.
Je vous embrasse
Christian
tous. À la semaine prochaine. Merci Audrey, merci mesdames et messieurs.
Et dans un instant.
Et notre Alain Delon est là.
Raphaël Grably dans un instant. Raphaël, on va parler non pas de cinéma puisque tu es Alain Delon, mais plutôt
Alain
de
loin.
Alain Delon.
Comme disaient les inconnus.
Alain Delon, oui c'est ça. On va parler de smartphone et tu vas nous donner des conseils pour bien choisir notre smartphone.
Oui, il y a eu la grande messe du smartphone, Mobile World Congress à Barcelone, donc il y a une flopée de modèles qui vont arriver, qui vont débarquer, et donc on a beaucoup de questions régulièrement. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Apple, Samsung, etc. Alors oui, Apple, oui Samsung de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup d'autres marques
avec d'excellents rapports qualité-prix, notamment
super rapports qualité-prix.
On n'est pas obligé de mettre 800 euros dans un smartphone.
Mais maintenant, on a des super smartphones à 200 euros.
On en parle tout à l'heure entre 9 et 10 sur RMC. Vos questions dès maintenant sur ce sujet 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio sur votre smartphone s'il fonctionne. À tout de suite.